Vous écoutez
RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Sarah Pitkowski.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver après ce week-end de folie que vous avez certainement vécu sur RMC. Nouvel épisode de Bartoli Time ce soir, exceptionnellement, Marion Bartoli est dispensée. Elle ne sera pas avec nous, elle commente la Night Session, mais elle nous a laissé un énorme cadeau. Je vous en parle dans quelques instants. Sarah Pitkowski va m'accompagner ce soir pour débriefer toute l'actualité. Bonsoir Sarah.
Bonsoir JC, bonsoir à tous.
T'es en forme ?
Absolument, j'ai passé l'après-midi au stade, j'ai vu de très belles choses et on va revenir dessus.
Ah oui, parce qu'il y a le premier jour de Roland-Garros.
Mais oui,
oublié.
Ça commence un dimanche.
On retrouvera Eric Salio dans quelques instants. Vous allez tout savoir sur cette première journée. Un programme magnifique dans Bartoli Time. La une, c'est une exclusivité RMC et BFM. Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football, réagit pour la première fois, Sarah, depuis des incidents hier entre les supporters lyonnais et parisiens en marge de la finale de la Coupe de France. 19h20, le stade toulousain au sommet de l'Europe. Hier, les Rouges et Noirs ont remporté la 6e Champions Cup de leur histoire. Nous serons évidemment en direct de Toulouse, place du Capitole, pour les célébrations. Romain Ntamack sera notre invité à 19h30. C'est l'événement donc ce soir dans Bartoli Time. Interview exceptionnelle avec Raphaël Nadal. L'homme aux 14 grands chelems sera sur RMC à la veille d'affronter Alexander Zverev. Et puis 19h45, Charles Leclerc, enfin prince chez lui, le monégasque, s'est imposé pour la première fois de sa carrière sur le Grand Prix de Monaco. Un Grand Prix marqué par un énorme accident dès le premier tour, mais également un accrochage entre les deux alpines. Jean-Luc Roy, notre spécialiste, sera également avec nous. Allez Sarah, tu étais à Roland-Garros donc cet après-midi, porte-auteuil.
Oui.
On va retrouver Eric Salio car il y a des Français sur le court. Bonsoir Eric.
Bonsoir à tous. Avec une bonne nouvelle à l'instant, la qualification de Caroline Garcia pour le deuxième tour de ces internationaux de France. La Lyonnaise qui vient de battre non sans mal la jeune Allemande Lys en trois manches, 4-6, 7-5, 6-2. Ça a été compliqué, mais l'essentiel est là pour la numéro 1 française.
Bon, c'est parfait pour Caroline Garcia. Sarah, pas de surprise, même si la française s'est un peu fait peur.
Oui, et plus que fait peur.
Enfin, la qualification, c'est pas une surprise, mais le match...
Oui, mais le scénario était effectivement compliqué. Mener un 7-0, elle a dû s'employer pour remporter la deuxième manche 7-5. Et puis après, effectivement, elle s'est un peu plus relâchée et elle a fait parler la puissance, mais c'est toujours les montagnes russes avec Caroline Garcia, donc on n'est jamais serein.
Une autre très bonne nouvelle pour l'instant, en tout cas, Richard Gasquet mène 2-7-0, Eric.
Ah oui, on croise les doigts, pourvu que ça dure. C'est magnifique ce qui se passe sur le court Suzanne Lenglen. Deux tie-breaks, 7-6, 7-6 pour Richard Gasquet dans une ambiance absolument extraordinaire avec le toit. Donc ça donne une acoustique encore supérieure. Un partout dans le troisième face à Borna Coric. Il joue la scie, Richie, à 37 ans.
Dis-moi, Eric, on a pris un peu de retard sur la journée, non ?
Oui, il y a eu un petit orage donc sur les cours annexes. On a plus quoi 1h30 de retard, donc on va finir très tard. Mais c'est pas grave, ça va être magnifique. Le feu d'artifice, je vous le prédis, ce sera le Moutet-Jarry
sur le Simon Mathieu.
On
l'attend.
Ça va être énorme. Ce Moutet-Jarry, tu nous en parles depuis ce matin dans les grandes du sport, dans les paris RMC.
Le premier tour à suivre, c'est pas Zverev quoi. C'est Moutet-Jarry.
Oui. Bon, je vous rappelle quand même que Nadal sera dans cette émission à 19h30, même si on adore Moutet-Jarry, et tu nous en reparleras un petit peu plus tard. Évidemment, Eric, dès qu'il se passe quelque chose, tu es en direct dans Bartoli Time ce soir. Un autre direct en cours, c'est avec Wilfried Templier, notre correspondant à Toulouse. Bonsoir Wilfried.
Salut JC, salut Sarah, bonsoir à toutes et à tous. En cours, mais sur la fin quand
même. La fête vient de se terminer, place du Capitole pour le retour des héros.
Avec les supporters, tout du moins. Oui, le Stade Toulousain était accueilli par ses supporters. Ils étaient des milliers ici. Alors, ils étaient 15 milliards. Ça devait être la même chose aujourd'hui. Et les héros, fatigués. Beaucoup de lunettes de soleil sur les visages des joueurs sont arrivés à 18h en bus. Donc, c'est Antoine Dupont qui a mené un peu tout ça, hein, qui est descendu du bus avec la coupe, qui a été la faire toucher par les supporters, qui est monté ensuite. Vous savez, il y a le balcon, place du Capitole, et avec Hugo Mola, il a soulevé la coupe en premier, puis tour à tour les joueurs ont fait pareil. Ils ont les traits tirés quand même, hein, parce qu'ils sont arrivés dans la nuit, ils ont été déjà récupérés par les supporters, mais ils ont passé la nuit tous ensemble. Il y en a qui ont très peu dormi. Romain Ntamack m'a dit qu'il avait dormi 2 minutes par exemple, et 2 heures, ce qui est peu, mais
oui.
Et mais donc c'est pas toi qui as dormi 2 minutes là.
Peu plus, mais c'est la journée est un peu longue, hein. On est parti de Londres ce matin, la journée est un peu longue, et évidemment donc on a, voilà, il y a eu les musiques, on a fêté ça, et là ça vient de se vider. vider. Ça vient de se vider. Il reste plus que l'immense. Ils ont mis un immense drapeau en face Stade Toulousain avec marqué Red Kingdom. Voilà, le Royaume Rouge. Eh bien, c'était le Royaume Rouge en Champions Cup cette année pour le Stade Toulousain, vainqueur de la finale hier face au Leinster après prolongation 31-22.
Merci beaucoup Wilfried Templier. On te retrouve un petit peu plus tard avec l'un des héros du Stade Toulousain, Romain Ntamack. Alors ce soir dans Bartoli Time, un magnifique cadeau à vous offrir à l'occasion de la sortie du jeu Tennis Manager 2024. Vous qui aimez Roland Garros, vous qui aimez les jeux vidéo, eh bien nous offrons à 5 d'entre vous une clé à activer sur Steam pour jouer sur PC. Voilà, j'ai 40 ans et j'ai pas tout compris ce que je viens de dire. Vous souhaitez être dans la peau d'un manager sportif ou devenir capitaine de l'équipe nationale, rien de plus simple. Appelez le 32-16. Il y a 5 jeux pour vous. Voilà, c'est comme Football Manager, mais en tennis. Pour tous ceux... Mais non, je ne suis pas en train de ramer Sarah.
Bah, non, on te regarde, mais je...
Tennis Manager.
Oui, je suis contente de ne pas être à ta place, là, parce que j'aurais pataugé comme toi.
Le 32-16, et ce jeu est pour vous, promis. OK, les copains? Allez, tout de suite, la une de Bartoli Time, les violences, hier à Lille.
Eh, le plus, il est gazé.
Voilà.
RMC, la une de Bartoli Time.
Et les images sont d'une rare violence hier en fin d'après-midi. Des affrontements ont lieu entre supporters parisiens et supporters lyonnais sur l'autoroute A1 tout près de Lille, en marge de la finale de la Coupe de France. Le bilan, une trentaine de blessés, des dégâts matériels impressionnants et encore une fois une image du foot consternante. Pierre Thévenet, notre journaliste RMC Sport, est avec nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir JC, bonsoir à tous.
Déjà,
bonsoir.
Un rappel des faits pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Que s'est-il exactement passé sur ce péage de Fresnes aux alentours de 18h hier?
On est donc près d'Arras sur ce péage de Fresnes-les-Montauban. 18 quarts de supporters ultra-parisiens sont présents. Ils devaient être là. Ils attendent leur escorte policière qui doit les emmener au stade à Lille. Arrivent des quarts de supporters lyonnais qui, eux, ne sont pas censés être là puisque leur point de rendez-vous se situe en amont à une quinzaine de kilomètres sur une autre aire d'autoroute. Et c'est là que la situation devient incontrôlable avec tous ces bus réunis. Pas possible à ce stade d'affirmer que ce sont les lyonnais qui ont attaqué en premier les parisiens ou vice-versa, évidemment. Mais il y a un déferlement de violence, des bagarres, des jets de fumigène qui embrasent notamment un car lyonnais sous une barrière de péage. Ça a donné des images très impressionnantes avec une épaisse fumée noire qui sortait du car et de la barrière de péage. La situation est finalement contrôlée par les CRS présents sur place à grand renfort de gaz lacrymogène. Mais on a un bilan, tu l'as dit, de 30 supporters blessés, de 8 policiers blessés également, un car calciné et l'autoroute A1 qui a été coupée dans les deux sens de circulation pendant 4 heures environ. Tout le monde a finalement pu aller au stade, certains beaucoup plus tard que d'autres. Certains Lyonnais sont arrivés qu'à la 70e minute de jeu à Villeneuve-d'Ascq. Et aujourd'hui, les Parisiens sont rentrés chez eux tard dans la nuit, les Lyonnais ce matin, cette fois-ci sans heure.
C'est important de le préciser, le retour s'est mieux passé que l'aller. Déjà ta première réaction Sarah, quand tu as vu les images hier de ces affrontements?
Bah, le choc, choquant, désolant, c'est juste dramatique. Et encore une fois, ce sont des incidents qui doivent être condamnés, punis le plus rapidement possible, et on espère que les différentes instances, c'est pas uniquement judiciaire, puisqu'on va entendre le président de la Fédération française de foot, prennent chacun et à leur niveau des décisions ou poussent à prendre des décisions. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça.
Alors que vont faire les différentes instances? Tu as réussi, Pierre Thévenet, à joindre le président de la 3e de la Fédération française de football, Philippe Diallo, il y a quelques minutes. C'est une exclusivité BFM TV et RMC. Comment déjà a réagi le président de la Fédé à ces violences?
Alors déjà dès hier soir, il y avait une première réaction de la FFF, mais seulement vient communiquer. Ils avaient déjà condamné fermement les violences, comme tout le monde finalement l'a fait.
Qui ne le ferait pas?
Évidemment. Sauf que Philippe Diallo, donc on a pu le joindre, et en plus il était par hasard présent au niveau des barrières au moment des faits. Donc il a tout vu, lui, de ses propres yeux. Il raconte des scènes extrêmement choquantes.
Je regrette très vivement, et évidemment je condamne ce qui s'est passé à ce péage. Les comportements inadmissibles de personnes qui se veulent des supportières, mais dont le comportement en fait s'apparente à celui de voyous. Qui vont au match de manière assez étonnante avec des cagoules, avec des ceinturons. Tous ces objets montrent assez bien les intentions de ces gens qui prétendent se rendre à un match de football pour supporter un club. Et je me félicite d'ailleurs qu'il y ait eu d'ores et déjà une dizaine d'interpellations et je souhaite maintenant que la justice fasse son œuvre pour que ces individus violents soient sanctionnés comme ils méritent.
Sarah, je te voyais réagir au premier propos de Philippe Diallo.
Bah oui, quand les détails de personnes qui vont voir un match de foot armées d'armes blanches ou en tout cas d'objets qui ont pour but soit de se défendre, soit d'attaquer des personnes en face de soi, déjà c'est totalement invraisemblable. Donc à qui est la responsabilité de faire monter des personnes avec ce type d'objet dans un bus pour se rendre à une finale ou à un match quel qu'il soit? Comment ça c'est encore possible aujourd'hui? On est capable de faire rentrer dans des stades des gens avec des portails de sécurité. On est capable de faire fouiller des centaines et des dizaines de personnes pour rentrer dans un stade. Comment on n'est pas capable de surveiller des gens qui montent dans un bus? On pense que quoi? On pense que le bus va arriver, que là, on va les faire passer dans des portails et on va leur faire enlever tous leurs objets au moment où ils vont entrer. Mais ils le laissent dans le bus. Même l'idée de se déplacer, c'est qu'ils ont l'intention d'affronter les supporters adverses avant même de rentrer dans le stade. Le stade n'est plus un problème, en fait, aujourd'hui. Le stade n'est plus un problème. C'est tout ce qui se passe en dehors de qui est la responsabilité de ce qui se passe autour.
Et tu disais, Sarah, justement, ces incidents, ces violences, elles se sont déplacées en dehors, oui, des stades. Maintenant, les stades sont ultra surveillés.
Exactement.
Il y a de plus en plus d'actions violentes en dehors des stades, des convois de supporters qui sont attaqués. Il y a des supporters marseillais qui ont été attaqués autour de Clermont il y a quelques semaines. Des Niçois qui rentraient de Lyon également qui ont été attaqués. Et on se rappelle évidemment du bus de supporters, du bus des joueurs lyonnais en arrivant à Marseille qui avait été caillassé avec ces images, bien sûr, de Fabio Grosso ensanglanté.
Exactement. C'est très important de le préciser. Ces violences ont pu maintenant migrer vers l'extérieur du stade. La question tout de même, Pierre Thévenet, que tout le monde se pose, comment les bus ont pu se retrouver là au même moment alors que cette rencontre avait été classée à haut risque? On rappelle souvent cette échelle de 5 sur 5, donc ça veut dire le risque maximal.
5 sur 5, c'est risque de trouble à l'ordre public très fort. Et en effet, on se demande comment c'est possible que tous ces cars soient placés en même temps, parce que c'était la chose à éviter, que ces deux convois se rejoignent à un moment donné. La préfecture du Nord explique que certains cars lyonnais étaient en retard et que l'un d'eux n'a pas respecté le protocole, a filé directement au péage de Fresnes-lès-Montauban. L'Olympique lyonnais, de son côté, n'a pas du tout la même version. Et selon le club, les cars se sont rendus au bon endroit, ont suivi toujours les instructions de la police. Et l'OL dénonce, lui, une erreur manifeste de parcours. Même si la finale, après, on le rappelle, dans le stade, s'est bien déroulée, Philippe Diallo reconnaît qu'il y a quelques petites choses à améliorer.
Bien évidemment, c'est à l'occasion, et malheureusement, de matchs de football que ces incidents. Donc il faut nous renforcer à nouveau notre coordination, notre organisation, et puis il faut sanctionner pour que ces gens soient définitivement interdits de stade, parce qu'il ne faut plus qu'ils viennent au football.
Sarah ?
Ben oui. Il faut sanctionner, mais à quel niveau faut-il sanctionner? À tous les niveaux. Un, la responsabilité des clubs. Deux, la responsabilité de la fédération. Et après, la justice. Parce que là, Pierre, tu nous expliques, là, tu as oublié de nous dire, c'est l'enquête qui nous dira à qui sera la faute. Hein. Tu as oublié de nous rajouter la fameuse phrase qu'on nous colle à tous les...
Au final, rien ne bouge, c'est ce que tu veux dire.
Mais au final, rien ne bouge, parce que tant qu'on analyse les images, et tant qu'on retrouve ces gens-là, et tant qu'on passe en justice, et puis qu'ils prennent un avocat, et donc au final, ça, le temps va passer, et ça va continuer. Donc, est-ce qu'on n'est pas capable? En fait, ce qui est assez frustrant, c'est que le monde du football, là, en l'occurrence, se cache derrière la justice en disant « mais c'est la justice française qui va faire ». Mais vous, à votre niveau, vous pouvez aussi mettre la pression sur la justice. Vous pouvez aussi prendre des décisions qui sont radicales pour tenter de faire baisser cette pression. Parce que les accidents, on va droit dans le mur et il va y avoir des incidents de plus en plus, de plus en plus, plus graves. Les images, moi je les vois, mais n'importe quel autre être humain ou jeune les voit, les images. On voit des images et on se dit en fait, c'est banal. Et pourquoi moi je le ferais pas en fait?
Attention à ne pas s'habituer. Trop.
Mais exactement, c'est-à-dire qu'elles sont tellement visibles, tellement faciles à voir, qu'on a l'impression qu'on va s'habituer. Et l'escalade, moi j'ai peur de cette escalade si tout le monde ne va pas dans le même sens.
Sur les sanctions, Sarah, tu disais évidemment qu'il va falloir attendre la fin de l'enquête. Maintenant, le club peut lui aussi prendre ses responsabilités s'il reconnaît des supporters sur les vidéosurveillances. Le club peut de lui-même prononcer des interdictions de stade commerciales. Il y a plusieurs types d'interdictions de stade. Le club peut s'en saisir. Les clubs ne seront pas inquiétés. Hein. Les Parisiens, les Lyonnais, puisque ces incidents ont eu lieu loin de leur stade respectif, mais eux-mêmes pourront, s'ils le souhaitent, prendre l'initiative d'interdire ces supporters de stade.
Philippe Diallo, sur ces sanctions, sur ces mesures à prendre rapidement, il dit quoi ?
Bah, on reste sur des sanctions individuelles. On le sait, l'idée d'Amélie Oudéa Castéra, la ministre des Sports, de Philippe Diallo, ce n'est pas d'interdire absolument tout, c'est d'encadrer, de cibler les individus fautifs. C'est ce qu'ils ont toujours rappelé pour le cas d'hier. Il faut donc attendre la vidéosurveillance de l'aire de péage. En tout cas, quand on demande clairement à Philippe Diallo si le plus simple ne serait pas d'interdire tout bonnement les déplacements de supporters, sa réponse est très claire.
Interdire les déplacements de supporters de manière systématique, c'est d'une certaine manière signer une forme d'échec. Et donc, si cela doit arriver, ça doit être au cas par cas, mais en aucun cas, ça ne doit être une politique générale qui interdirait à tout supporter de pouvoir aller voir son équipe à l'extérieur.
Et sachez que vous allez pouvoir entendre sur BFM cette interview en intégralité à partir de 20h pour écouter le président de la Fédération Française de Football, joint par Pierre Thévenet. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Juste un dernier mot, on a bien compris, Sarah, que chacun se renvoie la responsabilité et surtout qu'il y a un dogme sur cette histoire. Non, il ne faut pas interdire, surtout pas interdire les déplacements de supporters.
Mais à force de ne pas interdire, on laisse la porte ouverte à toutes les dérives et c'est ce qui est en train de se faire. Je comprends qu'on ne puisse pas interdire de matière dogmatique et systématique, mais il va falloir prendre des décisions fortes. Ça peut être des non-déplacements pendant un mois, pendant deux mois. En tout cas, il faut forcer tout le monde à prendre une bonne décision et à se mouiller un peu dans les décisions et pas dire que finalement on attend que la justice fasse son travail, parce qu'aujourd'hui on a un arsenal judiciaire qui permet aussi à ceux qui commettent des méfaits de pouvoir trouver des failles pour pouvoir s'en sortir. Donc, en fait, on tourne en rond et c'est le sport. C'est le sport qui va payer les pots cassés. Et l'image. Enfin, il faudrait là demain matin, ou même déjà, regarder ce qui est tombé dans la presse, en fait. Qu'est-ce qu'on raconte de notre foot français ? Qu'est-ce qu'on raconte dans notre Ligue 1 quand on ouvre les journaux en Espagne, en Italie, en Angleterre ? Voilà. C'est aussi l'image du foot français qui est en danger.
Merci beaucoup Pierre Thévenet d'être venu nous voir ce soir dans Bartoli Time. C'était important de s'emparer de ce dossier. Philippe Diallo, donc l'interview en intégralité du président de la Fédération Française de Football à retrouver sur BFM TV à partir de 20h. Nous, sur RMC, à 19h30, c'est l'événement ce soir, l'interview exclusive avec Raphaël Nadal, l'homme aux 14 Grand Chelem. Il s'est confié à Marion Bartoli pour RMC, pour Prime Video. Ce sera à partir de 19h30. Mais tout de suite, et de 6 pour le Stade Toulousain.
L'essai de Baptiste Bell.
Ça passe
entre les perches. 7 points d'avance pour Toulouse, 22 à 15. Peut-être plus 10 sur cette pénalité qui va passer entre les perches, évidemment. 25-15 pour Toulouse, le plus 10. Aïe, 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 aïe. Bah oui, carton rouge, Pritchy Arnold,
et
oui.
Et les Irlandais vont se retrouver à 15 quand les Toulousains vont jouer la deuxième période à 14.
Essai. Aïe, 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 essai accordé à Josh Van Der Vlier avant la transformation. Le Leinster revient à 25 à 20. C'est terminé. Victoire 31-22 du Stade Toulousain qui remporte la guerre des étoiles. La sixième étoile va du côté du Capitole.
C'était un grand moment hier sur RMC avec cette victoire du Stade Toulousain. Les Toulousains, on en a parlé il y a quelques instants, qui viennent d'être accueillis en héros, place du Capitole, pour fêter ce nouveau titre. Notre envoyé spécial Wilfried Templier est avec Romain Tamac.
Oui, Jean-Christophe, on est avec Romain Tamac, qu'on retrouve ici au Capitole. Alors déjà, on va lui demander, parce qu'il vient de vivre le contact avec le public, la coupe. C'était pas la première fois, mais voilà, on s'en lâche jamais.
Non, ça va jamais. C'était la première fois qu'on présentait la Coupe d'Europe au Capitole. Donc non, ça, on se lâche jamais de ce genre de moment. Et c'est pour ça aussi qu'on joue au rugby, qu'on veut remporter des titres. C'est justement pour vivre ce genre de moment d'émotion avec le public toulousain. Donc non, honnêtement, c'est aussi ce genre d'émotion qui nous donne envie de revenir chaque année et de représenter des titres à notre public, parce qu'on vit des moments tellement extraordinaires que de revenir au Capitole avec un trophée, on s'en lasse jamais, non.
C'était pas la première fois, il y avait eu le bouclier pour vous l'année dernière déjà, c'était il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que vous revenez cette fois-ci avec la Coupe d'Europe en 2021, c'était aux allées Jean Jaurès pour ceux qui connaissent. 24 heures après, est-ce qu'on a encore des flashs du match là ? Est-ce qu'on est encore dedans ? Ou est-ce que voilà, il y a des choses qui marquantes qui restent ?
Ouais, évidemment, il y a toujours des choses qui restent, des choses marquantes. Parfois on en rediscute, on se redit sur cette action, c'était chaud. Sur cette action, on est revenu.
Mais tout était chaud, on a l'impression.
Ouais, non, tout était chaud, mais c'est vrai qu'on a des flashs qui reviennent parfois aux alentours de 2-3 discussions et on se remémore quelques moments du match, quelques moments clés. Donc, au-delà de la performance de l'équipe, c'est des moments qui vont rester gravés à jamais dans nos mémoires, parce que des matchs comme ça avec une telle intensité, je pense qu'on n'en vivra pas beaucoup.
Ce que j'allais vous dire, est-ce que vous avez déjà vécu un match si intense? L'engagement physique, le suspense, à bout de souffle tout le temps?
Non, je pense pas. Même les prolongations, les tirs au but qu'on a vécu face au Munster il y a 2 ans, je pense pas que c'était d'une telle intensité. L'enjeu était différent et c'est vrai que hier on a vécu encore un niveau au-dessus. L'enjeu, l'adversaire, le scénario du match et l'intensité où on a fait 250 plaquages, c'est quelque chose je pense qu'on a rarement fait, voire jamais. Donc ouais, un match de cette intensité-là, je pense qu'on n'en vit pas beaucoup dans une carrière.
On vous a cru dans les cordes à un moment, en deuxième mi-temps, avec une mêlée en difficulté, avec une pression physique de l'adversaire. Est-ce que vous l'êtes dit aussi ou jamais?
Non, après on voyait qu'on était en difficulté sur certains points. C'est vrai que en conquête, notamment mêlée, on était un peu en difficulté. Mais après on a réussi à rattraper les coups sur les défenses de ballon porté où on était remarquables. On a bien défendu leurs attaques. Donc franchement, on a été exemplaire de solidarité dans tous les secteurs du jeu. Donc même si on était en difficulté sur certains points, on a toujours réussi à rester soudés pour attraper les petites errances qui ont été les nôtres parfois. Et la preuve en est, c'est que le premier essai qu'on prend, c'est pendant les prolongations. Donc ça montre que notre défense a été très solide.
Vous avez fait un match différent de l'année, de la campagne européenne, où vous avez marqué 44 points de moyenne, 6 essais et demi de moyenne. Et sur cette finale, vous avez fait un match différent, défensif.
Ouais, on a fait un match défensif. Après, parce que le Leinster nous a imposé ce jeu-là, on n'a pas réussi à mettre la main sur le ballon. Dès qu'on l'avait, ils nous ont mis beaucoup de pression et on a vite perdu les ballons. Donc, on s'est adapté à ce match-là où il fallait qu'on soit fort en défense, qu'il fallait qu'on serre les dents, qu'on récupère les ballons sur des grattages, sur des turnovers et qu'on essaie de les exploiter au mieux. Et au final, tout le match, on est devant au score. Il marque une pénalité dans les dernières minutes pour aller en prolongation. Mais sinon, tout le match, on est devant au score, même si on a l'impression de subir tout le match. Donc, ça montre que notre résilience a été quand même assez remarquable. Et encore une fois, notre solidarité, je ne cesse de la louer depuis hier, mais elle a été vraiment exemplaire.
Vous avez pu profiter les 4 dernières 2 minutes, 3 minutes du match, le bout du bout de la prolongation, se retourner, regarder le stade, dire ça y est, on y est?
Ouais, avec le Leinster c'est compliqué parce que même si on a 9 points d'avance, on se dit que même 2 minutes s'il marque, c'est jamais fini. Donc, on a commencé un peu à savourer, on va dire, allez, la dernière minute où là on s'est dit que il fallait qu'il marque 2 fois, que là c'était plié. J'ai en tête quelques images avec Blair où moi je commence à avoir le sourire, il me dit Rome, on défend, je dis bien Blair, on a la 6ème étoile. Je dis même s'il marque c'est fini, donc on a souri tous les deux. Donc non, c'est des moments comme ça où on arrive un peu à savourer. Et c'est vrai que d'avoir eu ce matelas de 9 points d'avance en prolongation, ça nous a fait vraiment du bien.
La nuit a été comment?
La nuit a été courte, très courte, parce que voilà, il faut qu'on profite de ces moments. On banalise pas les victoires, on banalise pas les titres. Et on travaille dur toute l'année pour ce genre de moments. Donc, heureusement qu'on fête les titres comme il se doit. Et le staff nous a laissé quelques jours pour profiter de tout ça. Donc, je sais que les joueurs et tout le monde vont bien fêter ce titre-là. Et une fois que les festivités seront passées, on se concentrera sur la suite. Ouais.
Oui, la suite, vous êtes qualifié pour les demi-finales du top 14. C'est quelque chose que vous avez fait en 2021, un doublé. On vous en parle déjà après le match. C'est vrai que c'est... Mais on vous connaît, quoi, j'ai envie de dire.
Bah, tant qu'on est encore en lice en top 14, bien sûr qu'on se battra corps et âme pour aller le plus loin possible. Après, parler de doublé aujourd'hui, c'est quand même manquer, je pense, d'humilité. Et c'est pour ça qu'on n'en a jamais évoqué entre nous pour l'instant. Mais bien sûr que nos ambitions sont toujours les mêmes et celles qui sont affichées depuis le début de la saison, c'est de remporter les 2 compétitions dans lesquelles on est engagé. On a remporté la première, on est encore en lice pour la deuxième, donc évidemment que l'objectif ça sera de remporter le championnat aussi.
Bon, encore 2 jours de fête, un jour, on verra, on se laisse porter.
Ouais, on se laisse porter, c'est un peu aléatoire en fonction des envies du staff. Un jour, 2 jours, on va voir où ça en est, mais On a une équipe qui s'est fêté les titres, donc ça peut aller loin, mais il faut penser quand même qu'il y a un match à jouer ce week-end.
Juste pour venir vous savourer d'autant plus avec ce qui vous est arrivé après, avant la Coupe du Monde et la saison et le retour voilà, en un mois et demi.
Ouais, je sais pas si.
Tu penses même plus?
Non, moi j'y pense plus. Je sais pas si je savoure d'autant plus, mais je sais que je reviens de loin avec une grosse blessure, une grosse déception qui a été la mienne. Mais mon cas personnel passe bien après tout ce qu'on vit collectivement. Donc, non, je suis évidemment très heureux d'avoir pu jouer cette phase finale de Coupe d'Europe, d'avoir pu jouer cette finale hier qui a été historique et bien sûr très heureux d'avoir pu faire partie de l'équipe qui a remporté la 6e étoile au Stade Toulousain.
Voilà JC, on va remercier Romain d'être venu dans le bruit, j'espère que vous l'avez bien entendu. On va laisser aller profiter et puis je pense qu'on le reverra dans les semaines qui viennent cette fin de saison de Top 14. Merci Romain.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Wilfried avec Romain Ntamack, place du Capitole pour fêter les héros et le Stade Toulousain qui a réussi à remporter sa 6e étoile européenne. Rendez-vous compte, l'émission exceptionnelle Bartoli Time va se poursuivre dans quelques instants. Entretien avec Rafael Nadal, le roi de la terre battue, qui va peut-être disputer son dernier Roland-Garros. Justement à Roland-Garros, on retrouve Eric Salio pour la première journée avec Richard Gasquet qui s'accroche dans ce troisième set. Eric,
ouais, c'est un match splendide parce que ce match, il faut le gagner en 3-7. C'est mon opinion, c'est mon avis. 7-6, 7-6, 3 partout. Le Français était breaké, il vient de débreaker à l'instant face à Borna Cioric. Et encore un peu d'essence dans le moteur de Ricci, je pense. Allez, il faut tout donner pendant un quart d'heure, 20 minutes, et ça peut être une immense joie pour Richard Gasquet. Donc, il mène 2-7-0 face à Cioric. Un Français qui va bien aussi, c'est Muller. Alexandre Muller qui mène 2-7-0, 6-4-6-1 et 5-2 dans le troisième face à Nardi. Donc la qualif est toute proche. Et puis l'exploit aussi peut-être à venir pour Chloé Paquet qui mène 6-3, 3-0 face à la Russe Diana Schneider qui vient de gagner l'Open, le trophée Clarins dans le bois de Boulogne il y a 15 jours.
Et on rappelle aussi la qualification il y a quelques instants de Caroline Garcia. 19h27, on se retrouve dans quelques instants pour Bartoli Time avec Sarah Pitkowski et donc cet entretien exceptionnel avec Rafael Nadal. Surtout, restez bien avec nous. À tout de suite sur
RMC. Jusqu'à 20h, Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet, Sarah Pitkowski.
19h32 de retour dans Bartoli Time, au cœur d'une émission exceptionnelle. Dans quelques instants, une interview, un entretien de Marion Bartoli avec Rafael Nadal, le roi de la terre battue, qui va certainement disputer son dernier Roland-Garros. Vous allez l'entendre, entretien que nous allons diffuser dans une poignée de secondes. Vous donnez un rendez-vous dans 10 minutes. Nous serons en direct de Monaco avec Jean-Luc Roy après le Grand Prix de Monaco et la grande victoire de Charles Leclerc qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière chez lui. Et puis un Grand Prix marqué par un énorme accident dès le premier tour et puis un accrochage entre les Alpines. On parlera de tout ça avec Sarah Pitkowski et Jean-Luc Roy. Un point sur cette première journée à Roland-Garros avec Eric Salio. Eric, nos Français sont bien partis, notamment nos Français qui ont obtenu une wildcard, qui vont peut-être se qualifier dans quelques instants pour un deuxième tour.
Oui, on va commencer par Alexandre Muller parce que c'est le plus proche. Il a balle de match au moment où on se parle face à l'Italien Nardi. 6-4, 6-1, 5-3, 15-40. Et puis sur le cours Zinglen, la bataille continue pour Richard Gasquet. 2-7 d'avance pour le Biterrois. 4 jeux partout dans le troisième set. On sent qu'il commence à fatiguer. Il y a un petit coup de collier à donner pour une immense joie au bout peut-être.
On va rester avec toi évidemment pour cette balle de match de Muller, Sarah. Ça y est, c'est fait.
C'est fait.
C'est fait. Qualification d'un autre Français, Sarah. Muller, c'est une magnifique performance.
Oui, c'est une très belle performance. Effectivement, c'est jamais évident de gagner à Roland-Garros. Alors, j'ai pas le tableau sous les yeux. Je sais pas ce que ça lui ouvre comme deuxième tour. Mais c'est un joueur qui a surpris tout le monde il y a quelques semaines du côté de Rome. Donc voilà, il est dans la continuité. Bravo.
Il est plutôt jeune hein, tout de même. Enfin, il est jeune encore.
Mais
il
a plutôt jeune. Oui, 27 ans.
Non, mais il a 27 ans.
Ah, oui.
Je veux dire, c'est pas.
Oui, c'est pas la jeune génération d'Arthur Fils.
Tu parles d'Arthur Fils, Sarah. Ça peut être son prochain adversaire.
Ah bah très bien.
Parce que c'est le vainqueur de Fils Arnaldi et si c'est Arthur, ça veut dire qu'on aurait au moins un Français au troisième tour.
On commence à faire des comptes d'épicier à savoir qui va aller au troisième
manière,
tour.
De toute manière, le principe de Roland-Garros quand tu analyses le tableau, c'est de faire des comptes d'apothicaire. Oui, alors on en aura combien au deuxième tour puis en deuxième semaine.
C'est ça notre tout petit suite, jeu. C'est l'événement Rafael Nadal sur RMC.
les chaussons revers. Attention, Casper Ruud est en difficulté. Dadalen, bas d'attaque. Il monte. Il monte. Elle est sur la ligne. Et il finit là-dessus. Immense champion. Il en jette sa raquette. Il n'en croit pas ses yeux. Rafa Nadal.
Grandissimo.
Ce type est surhumain.
Grande Rafa.
Mais c'est un ace. Oh, le mec. Il est à genoux, Rafa Nadal.
Oui, grande.
Rafa Nadal. Rafa Nadal. Rafa Nadal. Rafa Nadal. Rafa Nadal. Je pourrais le crier 14 fois.
Fois. Bien sûr.
Mais je peux plus.
Il ne peut plus, enfin si, peut-être une 15e, on l'espère, même si Rafael Nadal, vous le savez, va affronter demain pour ce premier tour Alexander Zverev, tête de série numéro 4. Ça risque d'être très très compliqué pour l'Espagnol. Alors vous le savez, ce soir Marion Bartoli n'est pas avec nous, elle est prête déjà pour la première night session de la quinzaine, une première night session qui va voir s'opposer Stan Wawrinka à Andy Murray. Bonsoir Marion Bartoli, qui est quand même avec nous dans cette émission ce soir.
Oui, bonsoir Sarah, bonsoir JC, merci beaucoup de me passer la main. Effectivement, je suis en direct de Roland-Garros. Nous sommes à quelques minutes du début de la Night Session que d'ailleurs je commenterai pour Prime Video. Mais je désirais vous laisser un petit cadeau avant mon départ, un bonbon, une Madeleine de Proust, un moment unique, un moment particulier, un moment spécial qui restera dans mon cœur de journaliste pendant très longtemps. Un moment passé hier en one-to-one, en individuel avec Rafael Nadal pour Prime Video, le diffuseur bien évidemment officiel de Roland-Garros. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Rafa pendant environ 10 minutes. Vous allez pouvoir l'entendre sur ses 14 sacres ici, le moment le plus marquant pour lui pendant ses 14 sacres, les émotions qu'il ressent en ce moment avant d'affronter Alexander Zverev lundi. Bref, l'interview d'un immense champion, du roi de la terre battue. C'est pour vous, mes chers auditeurs de Bartoli Time sur RMC. Et c'était bien évidemment pour Prime Video hier.
Merci beaucoup Marion. Bonne première night session. Entretien donc exceptionnel avec Rafael Nadal, signé Marion Bartoli.
Rafa, merci infiniment de prendre le temps de répondre à mes questions pour Prime Video. J'aimerais prendre un petit peu le contre-pied de toutes les interviews que tu as dû certainement faire depuis le début sur Roland-Garros. Je voudrais te célébrer, toi, tout ce que tu as accompli, pas seulement parce que j'ai énormément d'admiration et de respect pour ce que tu as fait. J'ai joué aussi, mais je n'ai jamais réussi à disputer ne serait-ce qu'une finale ici à Roland-Garros. Tu en as gagné 14. Donc je veux que ce moment soit joyeux pour toi. Et j'espère qu'à travers mes questions, tu sentiras cette joie et le respect que j'ai pour toi et pour tout ce que tu as accompli. Rafa, je voudrais savoir, quel est ton état d'esprit maintenant que tu sais contre qui tu vas jouer, que le tirage au sort a été effectué? Tu te sens comment d'un point de vue de ta concentration, de tes émotions, tout ce que tu ressens chaque jour avant ce premier match que tu vas jouer contre Sacha Zverev?
Well, I'm just trying to build step by step the...
Bon, j'essaie juste de reconstruire mon jeu, pas à pas. Vous savez, je pense que c'est la première semaine où je suis capable, d'une certaine manière, de m'entraîner en pensant au tennis. Je me sens avec moins de limites physiques que les semaines précédentes, donc cela me permet de commencer à croire que les choses peuvent aller mieux maintenant. C'est très important pour moi, vous savez, mais je prends les choses jour après jour, en restant humble, avec la bonne discipline de travail et avec la bonne attitude quotidienne pour progresser petit à petit maintenant.
Go step by step, improving. No, so I mean, I need to play so good since the beginning.
Maintenant, je dois très bien jouer dès le début parce que j'ai eu un tirage super difficile, c'est vrai, et ça va être très très difficile. Mais je suis heureux. Je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Ça va être super difficile. Mais je suis heureux de la semaine de toutes les façons. J'ai apprécié chaque moment ici.
In all ways, I enjoy it every single moment here.
Oui, bien sûr. C'est ce qui est évidemment le plus important pour toi, parce que tu ne veux pas sentir que tu as atteint les limites quand tu arrives sur le court. Comment as-tu vécu l'évolution de ce que tu ressentais, justement? C'était vraiment jour après jour, tu sentais que tu allais de mieux en mieux, ou c'était un moment précis où tu t'es dit, ça y est, là mon corps va mieux, il répond bien, et ça va, je peux aller jouer à nouveau des matchs, je peux de nouveau lui faire confiance quand j'arrive sur le terrain?
Well, I mean, have been a lot of issues to be confident with my body, honestly. No,
je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes pour avoir confiance en mon corps, honnêtement. Comme vous le savez bien aussi, c'est quelque chose que vous devez construire jour après jour. Vous savez, vous devez croire que vous pouvez faire tel ou tel mouvement. Et je n'ai pas ressenti cela depuis si longtemps. Je commence à peine à ressentir cela à nouveau. Mais je ne sais pas si ça va être suffisant pendant une semaine maintenant.
I am
super happy with all the.
Mais je suis super heureux de tout ce qui s'est passé ici la semaine dernière. Tout le soutien que j'ai reçu, c'est juste incroyable. Je ne peux pas assez remercier toutes les personnes ici à Paris pour m'avoir fait ressentir ces émotions maintenant. Donc j'essaie juste de profiter et bien sûr de rester concentré et de maintenir la bonne concentration, de rester calme et d'essayer d'être prêt à jouer demain à un bon niveau.
Have the right concentration, stay with calm and just try to be ready to play on Monday at a good level.
Rafa, quand je suis arrivée ici à Roland-Garros aujourd'hui, j'ai entendu un énorme bruit sur le cours Suzanne Lenglen. Et en fait, c'était toi à l'entraînement. Il y a une image qui m'a marquée. C'est quand tu étais avec Roger Federer pour son dernier match. Et vous pleuriez tous les deux comme des bébés. Et je pense que tout le monde pleurait devant sa télé, dans le stade. Beaucoup de personnes, de fans, t'aiment pour ce que tu es, pour le joueur que tu es, te respectent comme moi je te respecte. À qui penses-tu que tu vas le plus manquer le jour où tu vas décider d'arrêter et ça sera ton dernier match?
Well, I tell you one thing. It's like when Roger retired, no?
Je vais vous dire une chose. C'est comme quand Roger a pris sa retraite. Il a été présent pendant 20 ans. Je veux dire, il fait partie de votre vie d'une certaine manière. Parce que vous le regardez jouer à la télévision. Moi, je l'avais en face de moi comme rival. J'ai eu la chance de partager de grands moments avec lui, avec nos fondations, en créant de beaux moments. Je pense qu'on a travaillé ensemble pour améliorer notre sport.
I think working together to improve our sport too.
Went to academy as well.
Exactly. I mean. So when arrived the moment that
donc,
somebody
quand arrive le moment
that,
où quelqu'un que vous avez l'habitude de voir quotidiennement part, vous savez, c'est comme si une partie de votre vie s'en va. Donc d'une certaine manière, c'est difficile à accepter parce que tous les changements prennent du temps à accepter.
In some way, difficult to accept because all the changes takes time to accept. And that night was
et cette nuit-là était forte en émotion. Maintenant, je me sens très reconnaissant, chanceux d'avoir pu profiter de ce moment avec lui.
Est-ce que tu as toi, Rafa Nadal, un rêve encore en tennis que tu voudras accomplir?
My dream is every day. For me, it's a present to be here.
Mon rêve se réalise chaque jour. Pour moi, c'est un cadeau d'être ici. Vous savez, j'ai affronté tellement de problèmes physiques qui me disent tout le temps, c'est trop, arrête-toi, ne fais plus ça.
Don't do it anymore. Don't, you know, it's enough. But I always find in some way
mais je trouve toujours d'une certaine manière la motivation, la passion et l'amour pour continuer. Et pour moi, chaque jour ici est un cadeau. Mais je ne prends pas ça comme ça quand je suis sur le court, parce que si je le faisais, je pense que je ne serais pas assez compétitif. Quand je suis sur le court, j'essaye juste de continuer à travailler de la manière dont j'ai toujours travaillé. Mais pour moi, c'est un cadeau. Et toutes les choses qui se passent ont beaucoup de valeur.
For me, have a lot of value. All the things that are happening now.
J'ai une dernière question, Rafa. On est à quelques mètres du cours Philippe Châtrier. Tu as gagné 14 fois ici. Tu as joué 115 matchs. Si tu devais garder dans ton cœur un moment, un point, une image, un sentiment, lequel ce serait?
C'est impossible pour moi, Marion, d'en choisir un.
I don't know.
Je ne sais pas. Le premier, je ne m'en souviens même pas.
I even don't remember the first one. Was in another life. So I remember, but I don't.
Du moins, je m'en souviens, mais je ne me souviens pas des sentiments. Mais je veux dire que, enfin, les sentiments lors du 10e titre ont été incroyables. Le dernier a été super émouvant pour moi. Je ne sais pas. C'est tellement, tellement de moments inoubliables et c'est impossible pour moi d'en choisir un.
On a vraiment hâte de te revoir sur ce court. Merci beaucoup, Rafa.
Thank you.
Amazon vous livre Roland-Garros. Dès le 26 mai, profitez des 11 matchs du soir sur Prime Video. Abonnement payant obligatoire, voire tarif et conditions sur amazon.fr/prime.
Et voilà pour cet entretien exceptionnel avec Rafael Nadal, signé Marion Bartoli. Balle de match pour Richard Gasquet. Retour au direct avec Sarah Pitkowski, avec Eric Salio. Richard Gasquet qui va peut-être se qualifier pour le deuxième tour de Roland-Garros. Une magnifique performance, peut-être même incroyable. Un exploit,
incroyable.
Eric.
Incroyable, à 37 ans. Richard Gasquet est sur le point de remporter un succès ici à Roland. C'est à l'occasion de son 1002e match. Atmosphère incroyable. Il a eu une première occasion, elle a été ratée. 7-6, 7-6, 5-4, avantage Gasquet sur le service de Borna Čuric. Première balle, out. Beaucoup. Au moins 3,57 m. Incroyable.
Eric, tu la connais celle-là?
Quoi, hein? La double?
Non, hein? Pas la double. Tu la vois ou pas?
Non, Sarah, on va pas espérer la double faute. Mais c'est vrai que pour Čuric,
ça doit être terrible
pour lui de jouer ce point.
C'est une seconde très sécure.
Le retour est assez moyen de Richard Gasquet.
Oh, le passing!
Oh, le passing!
C'est incroyable!
Il le fait!
Extraordinaire
Richard Gasquet. Victoire en 3-7 comme je l'avais annoncé dans les paris RMC. Ça rapporte gros, mais quel panard pour Richard Gasquet à 37 ans. Incroyable son 21e Roland. 7-6, 7-6, 6-4 face à Borna Čurić. Un dur à cuire du circuit, c'est énorme, c'est fantastique. Et on partage le bonheur avec Richie.
Quelle incroyable joie, quel bonheur, quel exploit. Richard Gasquet qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros. Alors oui, vous allez peut-être vous dire, attendez, ouais, calmez-vous, ce n'est qu'un deuxième tour.
Oui.
Mais Richard Gasquet, une longévité incroyable. Il a passé les 1000 matchs en carrière.
Absolument.
Il est entré dans une caste extrêmement rare et il arrive encore, à 37 ans, à passer ce tour face à un joueur hyper coté, largement mieux classé que lui, Sarah.
Ouais, et puis il y a une communion avec le public. Il faut savoir que Richard, depuis le début de la saison, il est plutôt abonné au match de qualif. Se retrouver là, il y a 3-7, c'est-à-dire que tu rentres sur le court, tu sais que il va falloir batailler au minimum 3-7. Il le sait que l'essence dans le moteur, elle n'est pas indéfinie. Et déjà, les deux tie-breaks, ils étaient ultra éprouvants. Mais non, c'est une très très belle performance de Richard Gasquet. C'est une formidable communion. J'étais sur le Suzanne pour le premier set avant de venir vous rejoindre. Et déjà à un partout, mais ça hurlait dans les tribunes comme si on était en train de jouer le tie-break du troisième set. Donc le public, je pense qu'il va le dire, le public a joué vraiment sa carte à 1000% pour le soutenir et pour le pousser et pour aller chercher une superbe victoire à Roland-Garros. Il y en aura plus beaucoup, donc il faut savourer celle-là.
Eric, on a envie de rester quelques instants avec toi, quelques secondes, parce que justement il va parler et on va l'écouter dans Bartoli Time ce soir. Richard Gasquet qui vient de se qualifier.
Il faut monter les niveaux, mais en principe on va l'entendre, hein, c'est bon. Entendez bien?
On l'entend très bien.
Parfait.
Je suis tellement émotionné pour toi.
C'est Alex Coetzee, l'ancien champion espagnol, qui pose la question en français.
21 fois que Richard Gasquet joue ici.
Et Richard Gasquet, on le sent épuisé mais ému. Hein.
Ouais, c'est clair que
voilà, le public encore une fois a été incroyable, c'est des émotions phénoménales. C'est vrai que voilà, quand tu rentres sur le court, tu vois tout ce public ici, c'est clair que ça t'aide à tout donner. Et c'est vrai que la balle de match était incroyable pour moi. Et...
Un passing de revers. Hein.
Oui. le plus beau revers de longue ligne.
La signature de Richie.
Exactement.
C'est clair que le public en France est incroyable depuis toujours, que ce soit en Coupe Davis, à Roland-Garros, c'est tout ce que c'est exceptionnel pour moi de jouer ici. C'est le plus beau cours du monde ici, Suzanne Lenglen. Donc merci à tous d'être venus et cette victoire est pour vous.
Et voilà pour la première réaction de Richard Gasquet qui vient de signer un exploit majuscule, une qualification pour le deuxième tour.
Et vous savez qui pourrait jouer au prochain tour?
Bah vas-y, dis-nous.
Le vainqueur de Sinner Eubanks. Énorme.
Ouais, ça ce sera sur le central, sur le Philippe Châtrier.
Facile d'éliminer Sinner en 3-7 pour
bien
Richard
sûr,
Gasquet.
Facile, bah facile.
On l'attend dans quelques jours. Mais
Sinner,
là,
il a une hanche en bois.
On reste. Merci Eric. On reste sur ce premier tour et on te retrouvera dans quelques instants. Nous allons débriefer le Grand Prix de Monaco avec cette magnifique victoire de Charles Leclerc. Mais il s'est passé énormément de choses, notamment au premier tour. A tout de suite sur RMC.
RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Sarah Bitkowski.
19h51, de retour dans Bartoli Time. À partir de 20h, votre programme continue sur RMC. Vous avez rendez-vous avec Nicolas Jamin pour Génération After. On va repartir à Roland-Garros, Porte d'Auteuil, retrouver Eric Salio après les qualifications d'Alexandre Muller, Caroline Garcia. Il y a quelques instants, Richard Gasquet. Une autre Française vient de se qualifier, Eric.
Chloé Paquet qui avait reçu une wildcard, 29 ans, c'est une fille qu'on connaît, qui a jamais franchi la barre du top 100, c'est incroyable, elle était 101 à une époque et elle désespérait de vouloir franchir ce palier. Elle vient de battre une fille dangereuse, Diana Schneider, je vous le disais, elle avait remporté le trophée Clarins dans le Bois de Boulogne il y a 15 jours. Donc belle victoire, 6-3, 6-1. Donc elle va au deuxième tour, je regarde mon petit tableau, elle va jouer soit Volinets, soit Krunic. Bon, ça paraît abordable sur le papier, on ne sait jamais.
Je sais pas, personne ne les connaît, Eric.
Non, c'est
pas
semblant. Non, c'est Siniakova. Très bien. Tête de série 32. Bon, bah, c'est okay. Une tête de série qui est à portée de main. Ouais.
Merci
ça
beaucoup,
veut dire
Eric.
Que Corentin Moutet va jouer contre Jarry dans quelques secondes.
Ok, parfait. Toute la soirée sera à suivre avec toi en direct de Roland-Garros. Nous accueillons Jean-Luc Roy pour terminer cette émission. Bonsoir Jean-Luc.
Oui, bonsoir JC, bonsoir Marion, salut à tous.
Alors Marion n'est pas là, mais tu peux lui dire bonsoir. C'est Sarah Pitkowski qui est avec nous, mon cher Jean-Luc. Pardonne-nous Jean-Luc, pris évidemment par l'actualité d'un week-end de folie et évidemment ce qui vient de se passer à Roland-Garros il y a quelques instants, mais on avait envie de t'avoir dans cette émission pour revenir sur ce Grand Prix de Monaco. Déjà avec toi, la première victoire de Charles Leclerc à Monaco, et c'était important de le souligner, il la voulait absolument. Il était parti en pole position, c'était la troisième fois d'ailleurs qu'il était en pole position, mais à chaque fois il n'avait jamais réussi à monter sur le podium. Cette fois c'est la plus haute marche.
Tout à fait, j'y sais. Ben, on dit toujours qu'à Monaco, effectivement, tu as remporté 50% de la victoire lorsque tu as décroché la pole. Et il a vu, malheureusement, à ses dépens, hein, que Charles, en 2021, il avait eu un problème mécanique avant même le départ du Grand Prix, n'avait pas pu s'élancer depuis la pole. Et en 2022, bon, il y avait eu quelques, on avait un peu foiré chez Ferrari au niveau de la stratégie. Il avait plu, il avait fini quatrième. Donc, la moitié du boulot avait été faite, mais pas le reste. Et là, fort heureusement, on le sentait vraiment bien dans ses baskets. Les Ferrari ont progressé, la belle place de Sainz, puis il était troisième sur la grille de départ, le démontrait également. Et puis c'est plus que mérité, c'est franchement une joie immense, parce que Charles, je le répète souvent, c'est un type vraiment bien, c'est un type qui est resté tel qu'il était, simple. Et puis bon, évidemment, il avait beaucoup d'émotions et de sanglots dans la voix, parce qu'il a dédié cette victoire à son papa, qui était lui-même pilote, hein, qui a fait de la Formule 3 et qui a tout fait pour l'emmener jusque là. Donc quand il était tout petit dans les rues de Monaco, il regardait passer les monoplace derrière les grillages, dire un jour moi, et ben voilà, c'est arrivé. Et au volant d'une Ferrari de surcroît, ce qui est vraiment encore mieux.
Oui, et puis au classement général, il fait une très belle opération. On rappelle que Max Verstappen a terminé sixième, et il n'est plus qu'à 31 points de Max Verstappen. Il est désormais deuxième, Charles Leclerc, donc pourquoi pas aller titiller le néerlandais. On avait aussi envie de t'entendre, Jean-Luc, sur ce premier tour assez invraisemblable à Monaco. Un accident très violent qui a impliqué Sergio Pérez chez Red Bull et les deux As, et puis quelques instants plus tard les deux Alpines qui se sont accrochés, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Pierre Gasly était très très énervé après son coéquipier.
Malheureusement, on peut dire que ce premier tour a été absolument chaotique, puisque même à la sortie du premier virage de Sainte-Dévote, et on l'a vu après, il y avait une petite friction entre Piastri et Sainz, qui a occasionné d'ailleurs un tout droit. On savait pas pourquoi, parce qu'il y avait une crevaison au pneu avant gauche sur la Ferrari de Sainz, qui a fini au casino, heureusement pas dans le rail. Et puis juste derrière, c'est produit, tu le disais, ce carambolage terrible. Alors moi, je mets quand même la faute sur Kevin Magnussen, la direction de course l'a pas fait pour le moment, mais si, il avait la roue avant gauche au niveau de la roue arrière droite de Pérez, il n'y avait pas de place. Hein. Alors évidemment, c'est un endroit déjà très rapide, même au premier tour, à largement plus de 200 km/h. En course, ça passe à 250 à peu près. Alors, on va dire qu'ils étaient à 220. Et à cet endroit-là, il n'y a pas la place pour deux ou trois voitures, parce que même l'autre, Hülkenberg, avec la Haas, était pas loin aussi décalé. Donc, on va dire c'est 75-25, mais c'est quand même de la faute de Magnussen, qui a déjà 10 points de pénalité sur sa licence et qui risque là d'en prendre quelques autres. Quand ce sera analysé, ça peut lui coûter une course de suspension même. En tout cas, on a quand même eu peur, même si les monoplaces sont très solides. Le rail était bien abîmé, il y avait des débris sur plusieurs dizaines de mètres, et donc drapeau rouge. Et puis, tu l'évoquais, je vais très vite, hein, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a eu entre-temps aussi, dans la fin de ce premier tour, avant que le drapeau rouge ne soit sorti, cet accrochage où Esteban Ocon, là aussi, bon, il l'a reconnu d'ailleurs, hein, c'est lui qui a commis l'erreur. Il a essayé de passer Pierre Gasly entre équipiers.
Il était fou furieux, hein, Gasly, hein, parlant à son écurie oui. au moment de la collision. Hein. Vraiment, il était très très énervé. Et c'est vrai qu'on va certainement en reparler en 10 secondes. Jean-Luc, rien ne va plus entre les deux. Hein.
Non, ça n'a jamais été. Hein. Tu sais, on le dit depuis le début, on le savait. Ils ont des personnalités complètement opposées, tous les deux, une histoire, même si elle est commune. Ils sont normands, ils sont affrontés en karting, enfin, toutes les disciplines du sport automobile. Mais c'est pas les meilleurs amis du monde, comme on le sait. Ils ne sont jamais partis en vacances ensemble, même avant. Il y avait eu l'accrochage, tu t'en rappelles, en Australie au début de la saison dernière, lorsqu'ils se sont retrouvés tous les deux équipiers chez Alpine. Bon, ça ne fait qu'empirer. Voilà. Malheureusement, ça rajoute encore des problèmes à Alpine, qui en a déjà énormément. Donc, si tu veux, c'est bien bien qu'il y ait une émulsion et que les deux pilotes soient émoustillés par la rivalité, mais ça ne doit pas aller à ce point-là. Quoi. Là, ça fait déjà deux collisions en deux saisons et c'est pas fini. Hein. Donc, je veux dire, ça va pas s'arranger. À mon avis, bon, Ocon est sur le départ, on le sait bien. Il cherche d'ailleurs activement une place ailleurs. Celle qui vise, c'est celle d'Hamilton chez Mercedes, pour être clair, puisque son manager, c'est Toto Wolff. Hein. Maintenant, on verra.
Exactement. Et toutes les dernières informations à retrouver sur rmcsport.fr. Évidemment, tu voulais parler d'émulation, parce qu'une émulsion, c'est ce que tu peux mettre dans ton assiette le soir.
C'était si pour faire un mot plus court, tu vois, pour gagner.
Même si c'est très bon. Merci Jean-Luc Roy d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Sarah Pitkowski.
Merci, bonne soirée.
Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast avec un entretien exceptionnel avec Raphaël Nadal. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, qui s'est confié aussi pour la première fois après les incidents et les violences entre supporters parisiens et lyonnais. Et également Romain Ntamack, l'un des héros toulousains. Bref, une émission extrêmement riche que vous pouvez retrouver en podcast. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Génération After autour de Nicolas Jamin. Il est 19h58. Merci d'écouter RMC. Salut.
RMC, 19h20. Bartoli Time.